fin. C'est parti. Je vous ai mis des citations, donc il y a beaucoup d'extraits. Je me suis beaucoup appuyée sur l'encyclique de Jean-Paul II sur Ecclesia de Eucharistia, forcément, qui est magnifique. Je vous invite grandement à la relire. Je vous ai mis quelques extraits au fil du cours, mais c'est vraiment un très très beau document, très profond et puis très très simple aussi, je trouve, d'accès. C'est un des extraits de son encyclique. Le Concile Vatican II a proclamé que le sacrifice eucharistique est source et sommet de toute la vie chrétienne. La très sainte Eucharistie contient en effet l'ensemble des biens spirituels de l'Église, à savoir le Christ lui-même, notre Pâque, le pain vivant qui, par sa chair vivifiée par l'Esprit Saint et vivifiante, procure la vie aux hommes. C'est pourquoi l'Église a le regard constamment fixé sur son Seigneur, présent dans le sacrement de l'autel, dans lequel elle découvre la pleine manifestation de son immense amour. Donc pour Jean-Paul II, c'est... Enfin, pour l'Église, hein, c'est pas une nouveauté. Et c'est vraiment la concentration à la fois du rôle de l'Église, et c'est ce qu'on verra un peu plus vers la dernière partie, et en même temps l'essentiel finalement de la liturgie et de l'activité de l'Église. Voilà. Alors ensuite, je vous ai mis une autre citation de Sacrosanctum Concilium, donc ensuite sur le Saint Sacrement. Notre Sauveur, à la dernière scène, la nuit où il était livré, institua le sacrifice eucharistique de son corps et de son sang pour perpétuer le sacrifice de la croix au long des siècles, jusqu'à ce qu'il vienne, et pour confier à l'Église, son épouse bien-aimée, le mémorial de sa mort et de sa résurrection, sacrement de l'amour, signe de l'unité, lien de la charité, banquet pascal dans lequel le Christ est reçu en nourriture, l'âme est comblée de grâce et le gage de la gloire future nous est donné. Et on va suivre un peu le plan de cet extrait, puisqu'on va parler d'abord de l'institution de l'Eucharistie. Ensuite, on va parler de en quoi c'est un sacrifice et le rapport avec le sacrifice de la croix. On parlera de la présence, qui n'est pas directement citée là, mais qui est dans la mention de mémorial et jusqu'à ce qu'il vienne aussi, d'une certaine façon. Ensuite, on parlera de tout ce qui est en quoi est-ce que c'est la communion, en quoi est-ce qu'elle nous unit au Christ, et en même temps comment elle nous unit dans l'Église et comment elle constitue finalement l'Église. Donc c'est tout le thème autour de l'unité et de la charité. Et puis dans cette thématique aussi autour de la communion, en quoi c'est tourné vers les fins dernières et la divinisation et la plénitude du royaume. Alors, tout d'abord sur l'institution. Donc, je n'ai pas trop retracé le récit de l'institution, parce que tout le monde le connaît. On connaît bien les évangiles. On va les vivre dans 3 jours. Donc, vous serez particulièrement attentifs. Ça sera une bonne façon de les méditer et de préparer ce jeudi saint. Ce qu'il a noté, c'est qu'il se retrouve dans les 3 synoptiques et dans saint Paul. Donc, je vous ai mis les références. Et pas dans saint Jean. On verra après qu'est-ce qu'on peut tirer de saint Jean. Donc le récit est très simple, quelques gestes, 2-3 phrases, sans aucune explication, on est vraiment très concentré, c'est vraiment très peu de versets en fait. Hein. Et puis il y a, on a quand même des mentions, même si c'est simple et rapide, il y a quand même des choses autour que le dernier repas est célébré dans un contexte sacralisé, pour lequel Jésus a voulu un cadre spécial. On a il envoie ses disciples pour préparer la salle. Pour cette scène, donc il y a c'est pas n'importe quelle salle, c'est pas mieux de nulle part. Il y a les rites de purification avec aussi la première coupe, et donc il y a le lavement des pieds chez saint Jean, et donc donc on est dans un cadre très sacralisé voire ritualisé. Les invités sont seulement les 12 apparemment. Les paroles même de l'institution indiquent que Jésus a conscience que son sang versé établit la nouvelle alliance annoncée par Jérémie, donc on a aussi beaucoup de références à l'Ancien Testament. Le terme de l'alliance est utilisé par Jérémie, et puis aussi dans l'Exode, on a aussi cette alliance qui est mentionnée. Et donc l'offrande eucharistique anticipe sur le don de la vie du Christ sur la croix et constitue un peuple nouveau qui établit comme l'ancien sur 12 pierres de fondation. Donc là, on a les 12 apôtres qui sont en miroir des 12 tribus d'Israël de l'Ancien Testament, et voué comme lui au culte du Dieu vivant. Donc, ce qu'il introduit aussi, c'est un culte. Faites cela en mémoire de moi. On va revenir sur ce commandement de réitération. La tonalité des enseignements donnés au cours du repas indique que la préoccupation est de faire vivre dans une communion de charité ces hommes encore si fragiles. qu'on est aussi dans un contexte où voilà, c'est aussi des débuts de l'Église, on le verra aussi tout à l'heure. L'ultime prière de Jésus est pour l'unité de ses disciples, unité fondée sur l'Eucharistie, unité qui est à la fois l'union de chacun avec le Christ et l'union entre eux, malgré leurs faiblesses et leurs péchés. Alors je vais après zoomer sur quelques noms particuliers, notamment le texte dit en grec, c'est le mot Eucharistie qui est utilisé, ayant fait une Eucharistie, ce qu'on a traduit par rendi grâce ou action de grâce, il prit le pain. Donc saint Paul et saint Luc utilisent ce terme-là. Et en fait, on voit que dans les paroles de Jésus, on a les trois dimensions de ce qu'est une Eucharistie. La prière très spécifique dans laquelle on fait mémoire des hauts faits de Dieu. Donc il y a rappel des hauts faits de Dieu. On a le désir de coïncider à sa volonté. Donc il y a une démarche en adéquation avec la volonté de Dieu. Et puis on fait des demandes. On peut faire le parallèle avec les prières d'Esdras qui ont aussi ces mêmes trois dimensions. Donc ce mot est très tôt utilisé pour nommer la messe, notamment chez saint Ignace d'Antioche et saint Justin. En fait, la messe s'appelait l'Eucharistie. Donc c'était les paroles même que le prêtre prononce sur le pain et le vin, même s'il y avait aussi bien évidemment les dimensions de la parole, etc. Donc c'était la messe comme maintenant. Mais c'était vraiment parce que c'était tout tourné et concentré sur l'Eucharistie, donc on appelait la messe l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est donc l'action de grâce, et l'Église fait l'Eucharistie. Donc elle fait dans le sens que c'est elle qui réalise l'Eucharistie, puisque c'est par le prêtre que l'Eucharistie est là, et puis par les fidèles qui sont aussi participants. C'est elle qui nous donne ce sacrement. Et donc, dans la parole de la préface, on voit vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu. Donc on est bien dans cette dimension eucharistique de la messe. Et notamment, on appelle aussi la prière eucharistique, etc. Enfin, toute cette partie de la messe. Et en fait, elle est Eucharistie parce qu'elle est aujourd'hui le oui reconnaissant que Jésus donne à la volonté de son Père et dont il nous partage les fruits. Donc ça, on verra tout le thème de l'actualisation et le rapport avec entre le jeudi saint et le jeudi saint de Jésus, la scène, et puis le maintenant de nos messes. Alors, les paroles de la consécration elle-même, « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », montrent que la réalité matérielle est touchée. Donc il y a ceci, hein, c'est un objet, c'est une chose, devient mon corps, mon sang, donc on a une vraie transformation, donc c'est pas seulement un signe, les mots sont assez précis et très concrets et très charnels, pour le coup. La parenté verbale entre le corps offert de Jésus qui s'est livré prouve que c'est le même mouvement d'amour qui se donne jusqu'à cette chair disponible. Donc on a le lien aussi entre son corps dans l'Eucharistie et puis le corps le lendemain qui est livré et son sang versé pour la multitude sur la croix. Donc en l'instituant, Jésus ne se contente pas de dire « ceci est mon corps, ceci est mon sang », mais il ajoute « livré pour vous et répandu pour la multitude ». Donc c'est non seulement livré pour vous et répandu pour la multitude, donc c'est même au-delà du cercle des 12, donc c'est bien la dimension de l'Église entière et de toutes les nations qui est mentionnée là. Et ce n'est pas juste pour vous concrètement, les apôtres qui sont devant lui. Donc c'est pas seulement donc il affirme pas seulement qu'il leur donnait à manger et à boire et que c'était son corps et son sang, mais en fait il en exprime aussi la valeur sacrificielle avec les mots livrés, répandus, rendant présent de manière sacramentelle son sacrifice qui s'accomplirait sur la croix quelques heures plus tard pour le salut de tous. Donc on verra quand on approfondira le thème du sacrifice et de la présence réelle le lien entre ce voilà le symbole aussi que le corps et le sang. Quand ils sont séparés, c'est le symbole de la mort. Donc c'est aussi une anticipation de la mort. Et pourtant, on a aussi la dimension de la vie, puisque c'est bien le corps vivant de Jésus glorieux qui est aussi là dans l'Eucharistie. L'ordre de réitération, « Faites ceci en mémoire de moi », suppose à chaque messe une nouvelle effectuation de l'acte initial qui le rend présent ici et maintenant. Et ce, d'autant plus que nous ne sommes pas spectateurs, mais acteurs, prenez et mangez. Donc on n'est pas juste à un spectacle où on rejoue ce qui s'est joué à la scène le jeudi saint, mais on est devant une nouvelle effectuation qui se fait ici et maintenant, et on verra dans quelle thématique et comment on peut dire que c'est la même chose ou que c'est une actualisation aujourd'hui de ce qui s'est passé il y a 2000 ans, et on a un rôle actif à faire. Après, la mention que je voulais faire, c'était qu'il n'y a pas de référence au repas pascal, on ne parle ni d'agneau, ni d'herbe amère, ni les sandales aux pieds. En fait, il y a seulement dans la préparation, je disais, les disciples allaient préparer la salle pour la Pâque. Voilà. Mais sinon, après, on n'en parle pas. On a le repas, il se déroule avec une première coupe, le pain rompu et ensuite la deuxième coupe, qui est le sang versé, mais qui était assez, voilà, qui est aussi sur tous les repas un peu ritualisés chez les Juifs, donc c'est pas non plus symbole. Donc on n'est pas complètement calé sur la Pâque. Et c'est aussi pour ça que l'Église n'a jamais mis toute la dimension des repas pascals. Donc il n'y a pas de reprise d'autre chose que ce qui est dit là dans les synoptiques et dans saint Paul. Voilà, donc on n'a pas une dimension de repas pascal dans nos liturgies. On n'a pas repris ces choses-là. Voilà. Et puis de toute façon, le repas pascal était quand même une dimension une fois par an, donc c'était quand même une commémoration une fois par an. Et là, on est vraiment sur quelque chose de quotidien, puisque ça débouche sur de la communion, ce qui est quelque chose qui n'était pas du tout dans le repas pascal. Alors ensuite, je veux parler du discours du pain de vie, parce que si Jean n'a pas relaté l'institution de l'Eucharistie par Jésus, lui, il a présenté, alors c'est un an avant, dans la Pâque d'avant, un dialogue entre les Juifs, Jésus et les Juifs à la synagogue de Capharnaüm. Juste après que la multiplication des pains, on est dans un contexte où, voilà, dans cette dimension de pain. Et donc, dans ce grand discours, enfin, c'est un dialogue normalement, mais il y a beaucoup, surtout Jésus qui parle, hein. Il y a quelques questions de son auditoire. Jésus déclare qu'il est lui-même la nourriture dont tout homme a besoin. Donc, ça, c'est la première partie du discours du pain de vie. Et puis, dans la deuxième partie, il annonce qu'il donnera effectivement sa chair à manger pour la vie de l'humanité. Donc on est vraiment dans un discours qui est comme l'ossature d'une messe. On a la liturgie de la parole et puis la liturgie de l'Eucharistie. Et le verset 51 est central, puisqu'il s'articule sur la phase d'avant et la phase d'après. Donc la première partie, c'est « Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour l'éternité. » Donc là, on est vraiment dans la dimension nourriture dont l'homme a besoin. Et puis ensuite, « Le pain que moi, je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. » Donc là, on a la deuxième partie où là, c'est un degré supplémentaire. Ce n'est pas juste une nourriture, une force, mais c'est sa chair elle-même qu'il donne à manger. Donc on est exactement dans le contexte de l'Eucharistie. On est sur la même thématique, même si là, on n'est pas dans un rituel, on est dans un discours. Lorsque Jésus énonce la phrase « Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel », il fait implicitement référence à la révélation du nom divin « Je suis ». Il se place non pas dans la lignée de Moïse, mais directement avec Dieu lui-même. Donc, c'est pas tant référence à la manne que directement à Dieu, qui est le pourvoyeur du pain et d'ailleurs de la manne, et qu'il appelle son Père. C'est aussi, finalement, dans cette thématique qu'on peut voir tout ce qui a été développé autour de l'oraison contemplative, tout ce qui est autour de l'adoration aussi du pain, mais aussi sur on parle de la mendication par la foi de la parole. Voilà, il y a cette idée d'imprégnation qui est dans cette thématique-là. Donc on a une synergie entre le Père et le Fils pour l'homme. Le Père attire invisiblement les hommes à Jésus et Jésus, par contre, enseigne explicitement aux hommes le Père. Jésus est l'aimant de l'humanité. Cette synergie du Père et du Fils aboutit à une première promesse, deux fois répétée, « Et moi, je le ressusciterai au dernier jour », et qui dit aussi « Vie éternelle ». Donc on a cette thématique de la promesse qui est la vie et la résurrection. Et puis la seconde promesse est encore plus insensée. Le pain que moi je donnerai, c'est ma chair. Donc le mot chair a trois significations. Donc la chair comme élément par opposition au sang, etc. Donc c'est un élément. Le corps comme partie visible de l'être humain par opposition à l'âme. Donc quand on parle de la chair, on parle du corps. Beaucoup d'ailleurs dans saint Paul. Et la chair comme aliment. Chair des animaux, on mange la chair. Et là, on voit que Dieu, il s'est fait homme en Jésus, qu'il a pris chair de la Vierge Marie. Donc là, on est plutôt dans la chair comme corps. Mais cet homme se donne en nourriture aux autres hommes. Et là, on est plutôt dans l'aliment, dans le dernier sens. Donc Jésus a couvert cette panoplie-là. Donc ma chair pour la vie du monde, Jésus annonce à la fois sa mort, sa résurrection et le don de l'Eucharistie. On a les trois dimensions qui sont là. Ce geste de Jésus à notre égard est la transcription du mystère pascal dans notre vie quotidienne. Il faut qu'on tienne les deux termes, le réalisme de l'Eucharistie et son effet spirituel. Voilà. Et c'est très important de voir que les termes consommer, chair, montrent que même Saint Jean, si c'était un discours, il n'est pas dans un discours métaphorique, c'est pas symbolique, quoi. La chair, c'est vraiment au sens, la carne, quoi. Enfin, on pourrait presque dire. Et donc, du coup, il y a ce côté très, très, oui, très concret des choses. Et consommer, c'est aussi vraiment un mot qui est utilisé pour consommer de la nourriture, etc. Donc, on n'est pas du tout dans un symbolisme ou dans une métaphore chez Saint Jean. On est vraiment dans quelque chose de très concret. Donc, on a bien le même couple chair-sang qui traduit chez Jean le couple corps-sang des synoptiques. Et donc, on a une affirmation du caractère complet de cet aliment, à la fois nourriture et boisson. Et puis, ce côté très concret de celui qui les reçoit, qui mange la chair et boit le sang, devient intimement uni à Jésus. Donc, ce n'est pas juste psychologique, ce n'est pas juste symbolique, c'est vraiment une réalité. Voilà. Et c'est renforcé par le mot « demeurer » qu'il utilise, qui est beaucoup utilisé dans Saint Jean, qui est vraiment cette idée de voilà, l'être entier est dans cette relation réciproque d'amitié profonde. Il y a ce côté de cette stabilité de ça. Il demeure en moi et moi en lui. Il l'emploie avec son père, mais il l'emploie aussi là pour l'Eucharistie avec nous. Donc elle est ouverte effectivement sur le Père et sur toute l'humanité. Et donc cette mendication du corps eucharistique à l'horizon de la vie éternelle du jour où cette union, encore bien imparfaite aujourd'hui, sera accomplie où nous verrons Dieu face à face. Donc elle est aussi tournée vers la joie et la fin des temps où ce sera encore plus plaigné cette demeure. Alors le thème du pain et du vin, donc c'est important de quand même mentionner, c'est du pain et du vin. Donc la symbolique de la nourriture, elle imprègne tout l'Ancien Testament. On a la manne dans le désert, on a le banquet de la sagesse avec le pain et le vin qui sont explicitement mentionnés dans ce banquet. Et puis le festin eschatologique qui est aussi autour de la nourriture. Donc c'est vraiment une thématique qui est assez courante parce qu'elle évoque beaucoup de choses, la nourriture et, comme on l'a dit tout à l'heure, la force et puis une intimité. Le Cyprien de Carthage développe le symbolisme du vin en disant que le vin symbolise très concrètement la fête et l'allégresse, alors que le pain symbolise plus la nécessité et le travail. Donc on n'est pas dans le même registre, mais du coup les deux sont complémentaires. Et le Concile de Florence, en 1439, dit « Tout ce que les espèces pain et vin procurent à la vie du corps, la réalité le donne à la vie de l'âme, c'est-à-dire réconfort, allégresse, restauration, soutien. Lorsque l'on mange du pain, on est restauré, on est plus fort, on est nourri. Lorsque l'on boit du vin, on est heureux. » J'aime bien la thématique de voilà, boire du vin, c'est heureux. Donc les chrétiens, c'est bien de boire du vin. Après, il ne faut pas aller trop loin, c'est comme tout. Ainsi, tout ce que font le pain et le vin au niveau du corps, l'Eucharistie le fait au niveau de l'âme. Donc il y a ce côté d'allégresse, donc il y a le côté nécessité ou fondamental, minimum, on va dire vital, qui est le pain. Et puis il y a ce côté surabondance de Dieu, de la joie et une certaine allégresse avec le vin, qui nous enivre dans le bon sens du terme de nouveau. C'est pas une incitation à l'alcoolisme. Alors, dans un deuxième temps, on va se focaliser un peu plus sur le thème de sacrifice. C'est vrai que c'est un mot qui n'est pas très à l'honneur, alors que dès le début, l'Eucharistie dominicale était considérée comme le sacrifice des chrétiens. Dans la Didaché, donc 1er siècle, hein, c'est tout début, on dit « Réunissez-vous le jour du Seigneur, rompez le pain, rendez grâce, après avoir d'abord confessé vos péchés, afin que votre sacrifice soit pur. Celui qui a un différend avec son compagnon ne doit pas se joindre à vous jusqu'à ce qu'il se soit réconcilié pour ne pas profaner votre sacrifice. » Donc on est vraiment sur la thématique « c'est un sacrifice ». Voilà, donc c'est vraiment ce que c'est d'abord. Il y a un autre texte de saint Irénée. Ainsi donc, l'oblation de l'Église que le Seigneur a enseigné à offrir dans le monde entier est réputée sacrifice pur auprès de Dieu et lui est agréable. Donc, on est vraiment dans cette thématique de sacrifice. Alors, évidemment, c'est pas un sacrifice sanglant, c'est plus nécessaire puisque le Christ a réalisé l'oblation parfaite sur la croix et c'est à ce moment-là qu'il y a eu le sacrifice sanglant et une fois pour toutes. On le verra un peu plus loin. Et donc maintenant, on n'a plus besoin de sacrifices sanglants, comme dans l'Ancien Testament, et parce que tout a été réalisé par le Christ, mais on a cette dimension de sacrifice qui reste. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, tous les sacrifices n'étaient pas sanglants non plus. Il y avait des sacrifices qui étaient l'offrande d'un certain nombre de biens de la terre. Donc on a une vision aussi du sacrifice qui est très sanglant, qu'on a réduit à ça, mais qui est plus large que ça. Et là, on est clairement dans ce contexte-là. Parce qu'en fait, c'est quand même, on présente à Dieu nos actions de grâce et nos supplications. Donc, on est vraiment dans cette dimension d'offrande qui est le sacrifice. Voilà. Et une autre dimension, c'est que dans l'Eucharistie, en fait, on offre le sacrifice du Christ lui-même, mais on s'offre aussi nous. C'est toute la dimension de l'offertoire. Voilà. Donc nous aussi, on est appelés à souffrir aussi avec le Christ. Quelque part à se glisser dans son offrande. Donc c'est bien une offrande réelle, charnelle. C'est le corps du Christ qui sauve dans l'Eucharistie. C'est un vrai corps, son sang, un vrai sang. La séparation, comme je vous le disais, du sang et du corps de l'autre côté rend réaliste la mort offerte par Jésus sur la croix. Donc on est bien dans une séparation et donc dans une mort. Séparation du sang et du corps. Lui qui est l'autel, le prêtre et la victime est au cœur du sacrifice eucharistique, comme de celui du calvaire, par sa présence en état d'oblation. Donc on a un sacrifice qui est un sacrifice d'offrande, qui est à la fois la commémoration de ce qui s'est passé sur la croix, et puis cette offrande qui est éternellement là, puisque ce corps et ce sang sont présentés sur l'autel céleste, devant le trône de Dieu. Mais il y a comme une transposition terrestre de ces réalités. Et donc, dans la loi nouvelle, la réalité sacrificielle elle-même est changée. Au lieu de l'immolation des bêtes, c'est lui-même que le Christ a ordonné d'offrir. D'un autre côté, quand on lit l'Épître aux Hébreux, il y a un unique sacrifice. Donc, en fait, le seul sacrifice, c'est celui sur la croix, le vendredi. Donc, c'est toujours le même agneau, non pas l'un aujourd'hui et un autre demain, mais toujours le même. Pour cette raison, il n'y a toujours qu'un seul sacrifice. Maintenant encore, nous offrons la victime qui fut alors offerte et qui ne se consumera jamais. Donc, il y a vraiment cette idée que tout s'est joué sur la croix. Et donc, on a comme une... Dans la messe, en fait, on n'est à la fois pas dans... On refait la croix. Ce n'est pas comme si le Christ souffrait à chaque messe. Ce serait intolérable et puis pas du tout pertinent, puisqu'il a souffert une seule fois et le salut est acquis. Mais on a... Donc, la messe ne fait pas nombre avec celui de la croix. Mais, en fait, c'est comme si... Donc, une explication, c'est Jésus-Christ qui a gardé dans son cœur l'offrande généreuse de son corps et de sa vie. En fait, il l'actualise lors de la messe en faveur des hommes d'un temps et d'un lieu, et cela tout au long de l'histoire et dans tous les continents et jusqu'à la fin des temps. Et l'Église a reçu l'Eucharistie du Christ comme le don par excellence, car il est le don de lui-même, de sa personne, dans sa sainte humanité et de son œuvre de salut. Donc en fait, c'est comme si le sacrifice sur la croix ne reste pas enfermé dans ce passé, dans ce temps-là, mais finalement qu'il déborde et qu'il irrigue tout depuis ce temps-là, dans toutes nos messes et partout, pour être pour nous rejoindre là où on est en fait. Voilà. Parce que, donc c'est ce que nous dit le catéchisme d'Église catholique, tout ce que le Christ est et tout ce qu'il a fait et souffert pour tous les hommes participe de l'éternité divine et surplombe ainsi tous les temps. Donc on a une notion qui est au-delà du temps et qui vient nous rejoindre là où on est, dans notre temps. Ce sacrifice est tellement décisif pour le salut du genre humain que Jésus-Christ ne l'a accompli et n'est retourné vers le Père qu'après nous avoir laissé le moyen d'y participer comme si nous avions été présents. Bon, ça, j'ai trouvé ça très, très riche pour méditer. C'est vraiment... c'est un vrai cadeau, non seulement parce que c'est Jésus qui est là et donc c'est un don parfait, mais aussi parce qu'en fait, il nous donne finalement de participer aujourd'hui à ce qu'il a vécu, lui, dans le temps. Alors, on n'a pas l'impression d'y être parce que c'est moins... Voilà, c'est voilé par les espèces, par le sacrifice, etc. Par les espèces et puis la façon dont c'est fait à la messe. Mais en fait, il nous donne le moyen de participer à ce qui s'est joué à ce moment-là, quoi. Et donc, il nous rend... c'est vraiment un cadeau de pouvoir être présent à ce qui s'est passé là. Donc la messe actualise l'unique sacrifice du Christ, le sacrifice du Christ total, tête et corps, et les fidèles participent activement en s'offrant eux-mêmes. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc en fait, le sacrifice eucharistique, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il rend non seulement présent le mystère de la passion et de la mort du Sauveur, mais aussi le mystère de la résurrection. Donc on n'adore pas dans le corps un corps mort, en fait. C'est le corps qui est ressuscité. Donc on a directement tout le triduum, en fait. On a la scène, on a le vendredi saint, et on a la résurrection. Donc on a vraiment tous les trois temps. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que le sacrifice trouve son couronnement et qu'il est agréé par Dieu. C'est bien parce qu'il y a eu cette résurrection. Voilà. Et Jésus, le Christ, dit bien dans Saint Jean, je vais faire le pain de vie, un pain vivant. C'est pas le Dieu des morts, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. On pourrait le transposer en disant, voilà, c'est pas un pain mort, c'est pas un corps mort, c'est le corps vivant du Christ. Donc ça nous amène directement à la présence réelle. Donc tous les pères de l'Église sont unanimes à souligner le changement. Ce n'est plus du pain ordinaire, ni du vin, c'est vraiment le corps et le sang de Jésus, par la puissance de sa parole, qui est la parole créatrice. Ça, c'est ce que nous dit saint Ambroise. Et à cause de l'efficacité de sa prière qui est toujours reçue du Père, ça c'est aussi ce que nous dit Jésus, et prière à l'Esprit Saint pour demander la consécration des dons, c'est ce qu'on fait dans l'épiclèse. Donc on est aussi dans une dimension trinitaire, Et c'est aussi en ça qu'il y a la présence de Jésus, et du coup avec le Saint-Esprit et le Père. Alors cette présence est tout à fait spéciale. On la nomme réelle, non pas à titre exclusif, comme si les autres présences n'étaient pas réelles. Quand Jésus dit « quand vous priez à deux ou trois, je suis au milieu de vous », c'est une présence. Mais là, elle est réelle, plus réelle que les autres, on pourrait dire, parce qu'elle est substantielle, c'est-à-dire qu'on a vraiment le Christ, homme-Dieu, qui se rend présent tout entier là, voilà, et dans toutes ses dimensions, y compris corporelles. Alors, les théologiens médiévaux, ça, j'en avais parlé dans un des deux premiers cours, qui ont construit la tripartition. Donc, le sacramentum tentum, sacramentum et restantum, je vous fais un petit point là-dessus, étaient bien conscients qu'il y avait une distance entre le signe et la chose même, voilà, et que la transsubstantiation, on ne peut pas non plus complètement la prendre au pied de la lettre, de dire c'est le corps de Jésus qui est là, voilà, stricto sensu, enfin, comme avant, quoi. C'est quand même autre chose. Donc il ne faut pas qu'il y ait la confusion qui ferait du corps sacramentel, donc de l'hostie, l'équivalent pur et simple du corps passif de Jésus pendant son séjour parmi nous. Donc il y a eu tout un débat à un moment donné avec Béranger de Tours, je crois qu'il s'appelait comme ça, et d'autres, voilà, qui en étaient à dire, mais c'est vraiment le corps du Christ qui est là, donc quand il faut pas le mâcher ou le croquer parce qu'on est en train de broyer la chair du Christ, enfin voilà. Donc ça c'est pas et quand on fractionne l'hostie, on fractionne Jésus, enfin tous ces discours-là, non, on n'est pas du tout dans ce registre-là, donc ça a été largement condamné, enfin ce qu'on peut dire de ça. Mais donc l'idée c'est de dire voilà, Jésus ne se réduit pas ni à rond, ni blanc, ni à du vin. Mais en fait, dès qu'il touche nos sens, c'est plus Jésus qui est là. C'est direct, c'est l'effet en nous, en fait. Du coup, on est directement dans l'effet et on n'est plus dans Jésus. Donc, quelque part, dès que le corps du Christ nous touche, en fait, on ne travaille pas Jésus au fond de nous, quoi. Quelque part, c'est dès que ça fait ça, c'est que l'union, la communion s'est réalisée, quelque part. L'union s'est réalisée. Et donc, après, c'est l'Esprit Saint qui est là et qui grandit, et c'est la dimension de foi. Mais on n'a pas Jésus qui se promène dans notre corps. Voilà. Donc, il faut sortir du réalisme. Et en même temps, c'est ça qui est compliqué. Il faut dire qu'il y a quand même il y a un changement réel, quoi. Donc, quand on adore l'hostie, comme tout à l'heure, on n'adore pas un bout de pain, quoi. On adore vraiment Jésus qui est là, quoi. Donc, il faut arriver à tenir les deux, ce qui n'est pas simple, hein, je ne dis pas, hein, c'est compliqué cette histoire-là. Voilà, et avec les notions de cachet. Donc, ce que dit saint Thomas, peut-être qu'il peut aider aussi, c'est le corps du Christ n'est pas présent dans l'Eucharistie de façon locale, comme si on pouvait l'enfermer dans le morceau de pain. Donc, ça, c'est aussi la dimension. C'est pour ça aussi que quand on fractionne l'hostie, il est dans tous les petits morceaux de l'hostie, parce qu'en fait, Dieu et Jésus, dans son corps glorieux, il surplombe cette matérialité des choses. Donc, il est au-delà. Donc, on ne peut pas le réduire et l'enfermer à juste ce morceau de pain. Et donc, c'est ça aussi qui fait que, bah, finalement, il est à la fois dans tout, et dans tout au sens strict, et en même temps dans cette toute petite chose, mais il le dépasse infiniment. Donc, ça, c'est un premier élément de réponse. Dans l'Eucharistie, c'est la substance qui change, alors que les accidents restent. Ça, c'est la théorie d'Aristote. Donc, la substance, c'est plus du pain, puisque c'est Jésus qui devient du pain. Donc, ce n'est pas Jésus qui devient du pain, c'est le pain qui devient le Christ. Donc, on n'a plus de pain, en fait. Même si les accidents, c'est-à-dire ce que moi, je vois, ce qui est extérieur, bah, finalement, je continue à avoir du pain. C'est avec les yeux de la foi que je vois que c'est Jésus. Donc, on est dans l'inverse de d'habitude. D'habitude, la substance... elle reste et c'est les accidents qui changent. C'est les manifestations extérieures, c'est finalement ce qui est plus extérieur à nous qui change et puis la substance qui reste, la substance des choses. Et bien là, dans l'Eucharistie, c'est exactement l'inverse parce que c'est Dieu et que lui, du coup, quelque part, il change toute la substance du pain en la substance du corps. Et donc, le Christ est présent dans chacune des espèces, tout entier dans leur partie, de sorte que la fraction du pain ne divise pas le Christ. Une autre formule, c'est d'Henri de Lubac qui dit « L'Eucharistie est présence réelle parce que réalisante. » C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas juste une présence réelle au sens où voilà, Jésus se dépose là. Et là, on serait dans de la chosification et on l'enfermerait dans ça. Donc, c'est pas comme ça qu'il est. Hein, mais réalisante dans le sens où sa présence, sa présence finalement, elle déborde ça. Donc, c'est se rend présent à nous. Donc c'est toujours dans une pour réaliser notre communion, enfin la communion avec lui. Et donc voilà. Donc il est plutôt dans le c'est toujours dans le relationnel et pas dans le dépôt. Donc c'est pas son être qui est là au sens enfermé là. Je sais pas si c'est très clair, mais on pourra en discuter après. Et donc il faut éviter deux écueils, la présence indépendante de l'économie du salut, c'est-à-dire qu'on dirait juste Jésus est là et on penserait pas à toute l'économie du salut. Alors qu'en fait, il y a tout ça derrière. Et donc, il faut se rappeler que c'est sur la croix que ça s'est passé. C'est pas là maintenant. Et en même temps, c'est pas non plus un mémorial commémoratif. C'est pas le 11 novembre, quoi. Voilà. Donc, on n'est pas en train de rappeler un souvenir. On est en train de... Il se passe quelque chose. Et Dieu se rend présent à nous aujourd'hui. D'ailleurs, Dieu, dans toute sa façon de faire, et Jésus notamment par l'incarnation, etc., il n'explique pas. Il n'est pas venu expliquer les choses. Il est venu faire. Alors, il a beaucoup parlé, Jésus. Mais globalement, il a surtout agi. Et voilà, il n'a pas expliqué la souffrance et la mort, il l'a vécu sur le chemin de croix et la passion et la croix. Et il a fait des discours, mais il a surtout agi. Voilà. Et on le voit bien dans tous les miracles qu'il fait, c'est complètement imbriqué. Voilà. Et donc, quelque part, dans l'Eucharistie, c'est la même chose. Il n'explique pas plein de choses et il fait, c'est-à-dire qu'il se rend présent à nous. Voilà. En nous mettant contemporain de ce qui s'est passé le jeudi, le vendredi et le samedi, dimanche de la Pâque du Christ. Alors en fait, souvent on a opposé le sacrifice ou la présence réelle. Donc entre le moment où c'était très le sacrifice, après on a beaucoup réfléchi à la présence réelle. Maintenant on est très sur la présence réelle parce qu'on a beaucoup d'adoration et de choses comme ça. Et du coup on oublie un peu le sacrifice. Donc vraiment les deux sont intimement liés parce qu'en fait c'est les deux ensemble qui font que ça a du sens, enfin qu'on a tout le sens. Donc l'efficacité du sacrifice, c'est la présence réelle sous les espèces eucharistiques de celui qui mourut pour nous. Sinon, ce ne serait pas un sacrifice en fait. Donc s'il n'y a pas Jésus présent là, bah, en fait le sacrifice, on serait vraiment dans de la commémoration, quoi. Il y a pas, ce ne serait pas le sacrifice. Réciproquement, la présence réelle, c'est le fruit très concret du mystère pascal. Donc c'est parce qu'on a le rappel, etc., que finalement on a la présence réelle. Donc du coup, les deux sont intimement liés. Et il montre bien cette efficacité permanente des choses et qui est le jusqu'au bout du Christ. Voilà, il a été jusqu'au bout. L'Eucharistie est le sacrement parfait de la passion du Seigneur en ce qu'il contient le Christ même qui a souffert. Et en même temps, ce n'est pas le Christ qui souffre à chaque messe, mais c'est le Christ qui a souffert à ce moment-là, qui se rend présent aujourd'hui et qui est là tout entier. La réalité du sacrifice eucharistique n'est pas en corrélation avec la réalité de l'immolation, mais avec la réalité de la présence de la victime. Donc ça, c'est tout le problématique de considérer que finalement le sacrifice de la messe est comme une simple figure d'immolation relative à la croix. Et donc, dans ce cas-là, la messe ne peut pas être réelle, puisqu'on ne peut pas refaire la croix, le sacrifice de la croix. Pour sortir de cet écueil-là, Bérulle et ses disciples sont bien utiles, puisque en fait, ils rapportent le sacrifice eucharistique à partir de la présence oblative. Donc en fait, ils intègrent la présence et l'oblation, donc le fait que Dieu, Christ s'est donné sur la croix. Et on voit que le sacrifice, du coup, il se rapporte à trois dimensions. La scène, c'était l'oblation qui s'ouvre sur l'immolation imminente, qui l'annonce et qui la préfigure, la pré-réalise. La croix elle-même, donc l'immolation exprimant l'ultime réalisme de l'oblation. Donc il n'a pas souffert en peinture, hein, il a souffert en vrai. Il est mort aussi, en vrai. Et l'offrande céleste du Christ ressuscité à son Père, qui est l'oblation permanente et efficace, fondée sur le rappel de l'immolation, et qui est dans cette inscription dans la durée, et dans le corps glorieux avec la résurrection. Donc en fait, on a ces trois dimensions, et du coup, l'oblation, c'est peut-être un meilleur signe, un meilleur terme que sacrifice, pour dire là, cette présence oblative. Voilà, ce n'est pas une présence chosifiée, ce n'est pas un sacrifice, le sacrifice de la croix, mais c'est cette présence oblative qui fait qu'on peut être, que ça se rend présent à nous. Donc elle est la manifestation dans notre espace-temps de la réalité actuelle du Christ qui s'offre à son Père en tant qu'agneau comme immolé. De l'incarnation à sa glorieuse résurrection, Jésus a pris le temps de se donner éternellement. Donc c'est très beau dans la scène, en fait, il se donne les moyens de se donner éternellement dans nos messes. Je vous ai mis donc un petit passage du cardinal de Bérulle dans l'opuscule de piété. L'esprit et la grâce des autres mystères nous sont communiqués et appliqués. Mais le fond et la substance des mystères ne s'accomplit qu'une fois et n'a été communiqué qu'à ceux qui ont été présents à ce moment heureux, auquel les divers mystères de la vie de Jésus sur la terre ont été accomplis. Et quand on pense à la croix, il n'y avait pas grand monde des disciples qui étaient là en plus. Hein. Donc, heureusement qu'ils étaient tous là à la scène. Mais ici, le fond du mystère s'accomplit tous les jours et à toute heure, et s'accomplit et renouvelle en tous les lieux de la terre. Et ce qui est plus encore, non seulement l'esprit, mais le fond et la substance de ce mystère s'applique à tous, et en tout temps et en tout lieu. Et ce qui est encore plus considérable, c'est ce mystère qui nous applique l'esprit, la grâce et l'efficace de tous les autres mystères. Alors, toujours un peu compliqué avec le cardinal. c'est pas notre façon de dire les choses. Donc voilà. Mais c'est vraiment l'idée de se dire, voilà, c'est cette idée de il nous donne ce cadeau de pouvoir être présent finalement et de réaccomplir pour nous, enfin de pas de réaccomplir, mais de nous rendre contemporains de ça. Et c'est aussi la dimension de se connecter avec tous les autres mystères. Donc on est vraiment sur, là je reviens sur la première phrase, le source et sommet de tout, c'est l'Eucharistie. Parce que c'est là qu'il y a cette oblation, cette présence oblative parfaite de Jésus dans sa relation au Père et dans le salut pour le monde. Dans son éternité comme ici-bas dans la messe, la même oblation nous est présentée, oblation eucharistique et parfaite de son corps et de son sang. Alors maintenant nous allons partir sur la communion. Alors, je reviens sur mes histoires de sacramentum, là, et reste. Donc, sacramentum tontum, c'est le signe. Donc là, c'est le pain et le vin. Sacramentum et res, c'est la présence réelle. Donc, c'est le fait que la réalité du pain et du vin, elle est transformée. Alors, en fait, c'est le pain et le vin, et aussi les paroles. Parce qu'il y a toujours les paroles et le signe. Donc, le sacramentum et res, c'est le corps du Christ qui devient corps et sang. Et donc, la présence réelle de Jésus, présence oblative. Et puis l'effet ultime du sacrement, donc le restantum, l'effet que ça, voilà, qu'est-ce qui se produit, en fait c'est cette communion, donc dans ces deux dimensions, l'union au Christ et l'unité de l'Église. Donc à la fois l'union individuelle de chacun de nous avec le Christ et en même temps cette union communautaire puisque l'Église est l'épouse bien-aimée du Christ. Voilà. Donc le but de l'Eucharistie n'est pas en premier lieu de rendre le Christ présent. En fait, ça se passe au passage, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est la croissance du corps du Christ, l'Église, épouse du Christ, donc chacune de nos âmes, et tour à tour la réalisation encore précaire et incomplète. Nous communions au corps du Christ pour ne faire qu'un dans le Christ, pour faire grandir notre vie de grâce et pour que tous ensemble, nous soyons dans une communion de plus en plus intense, liée par le lien de la charité qu'est l'Esprit Saint, dont nous sommes abreuvés dans l'Eucharistie. Donc là, plusieurs choses. Il y a... C'est tout un de dire qu'il y a notre union individuelle avec le Christ et en même temps, c'est individuel et ça fait grandir l'Église. C'est-à-dire chaque fois qu'on communie, en fait, on fait grandir le corps du Christ et donc l'Église. Donc les deux sont intimement liés parce que la charité est unificatrice et parce que la charité, elle est toujours dans les deux dimensions. Aimer Dieu, c'est aimer ses frères et aimer ses frères, c'est aimer Dieu, les deux commandements. Et puis le deuxième point, c'est l'Esprit Saint. Ce que je vous disais, dès qu'on communie, dès que nos sens sont touchés, c'est l'Esprit Saint en fait qui irradie en nous et qui se rend quelque part et renforcé et nous abreuve. On va dire irrigué, abreuvé. Toutes les termes sont enivrés, puisqu'on peut employer ce mot-là aussi. Voilà. Alors l'Église naît du mystère pascal. C'est précisément pour cela que l'Eucharistie, sacrement par excellence du mystère pascal, a sa place au centre de la vie ecclésiale. Donc on le voit bien dès les premières images de l'Église, dans les Actes des Apôtres. Ils étaient fidèles à écouter l'enseignement des apôtres, à vivre en communion fraternelle, à rompre le pain et à participer aux prières. Donc on a bien le rompre le pain, la fraction du pain, qui est centrale dans la constitution même de l'Église. Les déclarations pauliniennes mettent fortement en valeur la dimension ecclésiale de l'Eucharistie. Donc là, c'est tout le texte sur le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ, puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. Donc ça, c'est toute la thématique sur 1 Corinthiens. De toute façon, 1 Corinthiens, je vous invite à la relire, parce qu'elle est très liée sur justement le corps du Christ, et on voit que ça a été utilisé dans deux dimensions, je vous en parle un tout petit peu après. Voilà, donc on a cette communion à un seul corps, et qu'on forme un seul corps par cette communion. Au chapitre 11, donc toujours 1 Corinthiens, explique que l'Eucharistie est le lieu où se réalise l'unité profonde de l'Église. Alors l'occasion où celle-ci est la plus menacée, j'ai absolument pas poursuivi cette voie-là. C'est toute la dimension dont je ne vous parle absolument pas là, qui est sur le thème de la quand on communie, bah, il faut être lucide et donc il faut être préparé. Et donc la communion, c'est le seul, l'Eucharistie, la communion, c'est le seul mention en tout cas d'un effet négatif potentiel en nous pour les sacrements. C'est le seul cas de figure où il y a une mention négative. Si on communie alors qu'on est par exemple en état de péché mortel, bah, ça risque de nous détériorer. Donc c'est pas neutre, quoi, voilà. Parce qu'on est tellement sur le sommet que ça ne peut pas être neutre. Donc ça suppose une préparation. C'est aussi ce que disait Justin en disant bah, « Réconciliez-vous d'abord avec votre frère avant d'aller à la messe. » C'est toujours valable d'ailleurs aujourd'hui. Hein. Ce ne serait pas idiot de le faire. Donc en fait, quand on dit que l'Eucharistie fait l'Église, on veut surtout dire que l'Eucharistie fait l'Église une. Elle l'a fait grandir, elle l'a fait unifier et elle l'a fait vraiment épouse du Christ. Le texte de la Didaquée, toujours mon texte là, du 1er siècle, il dit « Comme ce pain rompu d'abord dispersé sur les montagnes a été recueilli pour devenir un, qu'ainsi ton Église soit rassemblée des extrémités de la terre dans ton royaume. »
C'est beau.
Ouais, c'est très joli. La Didaquée, c'est pas mal. Alors, on pourrait dire que l'Église, elle vient évidemment au jour de la Pentecôte, puisqu'il y a l'Esprit Saint et que c'est ça qui nous guérit. Mais en fait, le moment décisif de sa constitution, c'est la scène avec les 12 apôtres, puisque c'est là qu'il a quand même fait ceci en mémoire de moi, c'est là qu'il les institue dans leur rôle de prêtre, et que finalement il démarre l'Église, puisqu'il va pouvoir c'est ça qui construit l'Église. Voilà. Donc c'est le Triduum Pascal qui est comme contenu, anticipé, concentré pour toujours dans le don de l'Eucharistie à la scène. Dans ce don, Jésus-Christ confie à l'Église l'actualisation permanente du mystère pascal, les phrases de réitération. Par ce don, il a institué une mystérieuse contemporanéité entre le Triduum et le cours des siècles. Alors, on a eu beaucoup dans le... C'est intéressant de voir que dans l'histoire de l'Église, on a parlé du corps mystique et du vrai corps du Christ, qui ont désigné à tour à tour et de façon inversée le corps sacramentel, donc l'hostie, et puis l'Église. Donc, voilà. Donc, du coup, c'est... Parce qu'en fait, c'est deux façons de dire les choses. Et finalement, quand on dit l'Église est l'épouse du Christ, ben voilà, c'est le corps du Christ et c'est l'épouse du Christ. Donc, en fait, on peut dire les deux sont vrais corps, au sens où c'est vraiment le Christ, et puis corps mystique, au sens où il y a cette dimension divine, enfin, ouais, qui nous dépasse et qui nous unit au Christ. Donc, en fait, les deux sont intimement liés, puisque nous recevons ce que nous sommes et nous devenons ce que nous recevons dans la communion. Donc, c'est une phrase, je ne sais plus qui, par contre, ça, j'aurais dû noter. Ah bah si, c'est dans... Non, c'est pas dans le Lumen Gentium. Ça doit être dans le Lumen Gentium, quand même. Ça paraît bizarre. Vérifierai. C'est dans la communion que l'Église est constituée et réalisée. Par la communion au corps du Christ, l'Église réalise toujours plus profondément son identité. Elle est dans le Christ, en quelque sorte, le sacrement, c'est-à-dire le signe et l'instrument de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. Donc finalement, l'Église, elle se constitue par l'Eucharistie. Donc, c'est ça qui la constitue. Alors, je vous ai mis un petit paragraphe sur une pratique qui se faisait, où on rompait le pain en trois parties. La première était mise dans le calice, ça c'est toujours vrai, rite de l'immixtion. La deuxième servait pour la communion du célébrant et des fidèles. Et la dernière était conservée pour la communion des malades et des agonisants. C'est moins marqué aujourd'hui, hein, mais je trouve intéressante l'idée. Ces trois parties étaient vues comme figuratives des trois états de l'Église. Le morceau d'hostie mis dans le calice figure l'Église triomphante, car la réunification du sang et du corps du Christ signifie la résurrection. Donc quand on met le corps, donc on est dans la résurrection, de même que la séparation des espèces avait signifié la mort. La deuxième partie est l'Église militante, ça me fait beaucoup rire ce mot toujours. Et la troisième partie, donc c'est l'Église actuelle qui combat, hein, c'est ça que ça veut dire. Et la troisième partie, c'est l'Église expectante et souffrante, celle du purgatoire. Voilà. Et cette unique hostie est donc partagée en trois pour signifier que l'Église est actuellement partagée en trois. Il ne faut pas oublier que l'Église, ce n'est pas seulement nous, mais aussi les saints du ciel et les âmes du purgatoire. Donc on a aussi une dimension un peu cosmique, je vous ai mis aussi un texte à la fin là-dessus, de l'Eucharistie qui va au-delà. On a déjà parlé de l'autel du ciel, mais voilà, donc il y a cette dimension très englobante de l'Eucharistie. L'union qui s'opère dans la communion avec le Christ est d'un type unique qui dépasse tout ce qu'on peut connaître par ailleurs. Elle comporte un accroissement de la vie de l'Esprit en nous, donc vous avez bien compris que c'est vraiment l'Esprit qui ça nous fait grandir dans l'Esprit, comme tous les sacrements, mais éminemment dans l'Eucharistie, puis comme c'est plus souvent, bah, ça nous rejaillit, ça nous irrigue encore plus. Dans la troisième prière eucharistique, le célébrant dit « Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. » Donc il y a bien cette dimension très importante de où en fait on devient le temple de l'Esprit-Saint. Le père Giton racontait une chose assez drôle, c'est que je sais pas d'où il tirait cette histoire là, mais que à la messe, quand les gens partaient très vite après la communion, il envoyait un petit servant d'hôtel pour accompagner un petit servant de cœur, enfant de cœur, pour accompagner la personne avec une petite clochette, parce que il partait trop vite et qu'il avait pas eu le temps de voilà. Donc je trouve que il y a un peu cette idée là, voilà, on est temple de l'Esprit Saint, et donc c'est important de se recueillir après et de prendre ce temps là d'action de grâce et de le laisser infuser avant de, au lieu de se sauver, surveiller son rôti. Par la communion, chacun est assimilé à celui qui le nourrit personnellement. Donc on est assimilé personnellement, pardon, à celui qui le nourrit. Et c'est toute l'union de l'Église et du Christ qui s'opère par sa communion. Donc en fait, chaque fois qu'on communie, en fait, on fait grandir l'Église, et on fait grandir l'union de l'Église et l'unité de l'Église. Nous pouvons dire non seulement que chacun d'entre nous reçoit le Christ, mais aussi que le Christ reçoit chacun d'entre nous. Donc c'est aussi cette démarche, on va à l'autel pour recevoir la communion. Donc il y a une, voilà, demeure en moi et demeurez en moi comme moi en vous. Et cette union, elle est vraiment analogique à la vie trinitaire. C'est pour ça qu'on parle aussi beaucoup de l'esprit. Et voilà, donc il y a cette intimité, cette communion comme à l'image de la vie trinitaire. Après, une dimension quand même de eschatologique, c'est ça nous tourne vers la fin des temps. Donc celui qui se nourrit du Christ dans l'Eucharistie, alors à la fois c'est déjà là, donc il n'a pas besoin d'attendre l'au-delà pour recevoir la vie éternelle, puisque quelque part chaque Eucharistie diffuse en nous la vie éternelle. C'est quand même des prémices de la plénitude à venir qui concernera l'homme dans sa totalité. Donc on a dans l'Eucharistie, on reçoit la garantie de la résurrection des corps à la fin des temps. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. C'est A, c'est pas aura, c'est A, la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Cette garantie de la résurrection à venir vient du fait que la chair du Fils de l'homme donnée en nourriture et son corps dans son état glorieux de ressuscité. Donc là, on revient sur la thématique, c'est à la fois la passion, mais c'est aussi la résurrection. Et c'est le corps glorieux de Jésus qui est là. Avec l'Eucharistie, on assimile, pour ainsi dire, le secret de la résurrection. Et saint Ignace d'Antioche définit avec justesse le pain eucharistique comme remède d'immortalité, antidote pour ne pas mourir. Alors on va quand même mourir un peu, mais on va surtout mourir au monde pour naître à la vie éternelle. Voilà. Et en fait, chaque fois que l'Église célèbre la messe, on est un peu comme l'expérience, on revit l'expérience des deux disciples d'Emmaüs, on est contemporains, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Voilà, et ça c'est dans la foi, puisqu'on est, on est quand même dans le domaine du... où c'est voilé. Alors là, je vous ai mis un texte sur le... toujours de Jean-Paul II, hein, parce que je suis quand même fan. L'Eucharistie est toujours célébrée en un sens sur l'autel du monde. Elle est un lien entre le ciel et la terre. Elle englobe et elle imprègne toute la création. Le Fils de Dieu s'est fait homme pour restituer toute la création dans un acte suprême de louange à celui qui l'a tiré du néant, comme s'il l'avait entièrement offerte sur la croix. C'est ainsi que lui, le prêtre souverain éternel, entrant grâce au sang de sa croix dans le sanctuaire éternel, restitue toute la création rachetée au Créateur et Père. Il le fait par le ministère sacerdotal de l'Église à la gloire de la Trinité Sainte. C'est vraiment là le mysterium fidei qui se réalise dans l'Eucharistie. Le monde sorti des mains du Dieu créateur retourne à lui après avoir été racheté par le Christ. Donc c'est vraiment une vision très cosmologique, mais enfin voilà, qui est très englobante de ce rachat, qui finalement intègre toute la création d'une certaine façon qui est incluse dans ce rachat. Et donc, devenir membre du corps par la communion, c'est occuper une place sans équivalent, répondant à une vocation spécifique. Donc, chacun est particulier. Et en fait, chacun dans la communion est à son tour le visage unique de l'Église dont le Christ était pris. Donc, on est à la fois personnellement en communion avec le Christ, et en même temps, on est, quelque part, on représente son épouse en toute sa globalité de tous les chrétiens. Saint Augustin écrit « Soyez donc ce que vous voyez, recevez ce que vous êtes », c'est-à-dire recevez le corps du Christ sacramentel et devenez le corps du Christ ecclésial. Il a aussi ce cri en parlant de l'Eucharistie « Au sacrement de la piété », ça demande la foi, « signe de l'unité, lien de la charité ». Voilà, donc là, on est vraiment dans ce à quoi sert l'Eucharistie. Donc vraiment, la finalité de l'Eucharistie, c'est cette communion et se faire grandir l'Église. Et en effet... bénéfique. En plus, on a cette présence qui permet qu'on ait aussi cette adoration possible de la présence réelle. Alors, en conclusion, je voulais partir sur l'Apocalypse, où on a la scène inaugurale, donc la première partie de l'Apocalypse, où en fait, ça fait penser vraiment à une célébration eucharistique, puisque c'est le jour du Seigneur. Et en fait, on y trouve l'affirmation de ce que c'est que cette communion, en fait, et ce à quoi on est appelé. « Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai la scène avec lui et lui avec moi. » J'ai mis le terme scène, qui est le plus proche du texte, pour vraiment rappeler, voilà, c'est cette dimension du jeudi saint. Voilà. Et donc, on a cette idée de demeure et de banquet et voilà, et cette intimité, et cette délicatesse aussi. Je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte. Voilà, il ne vient pas nous forcer. Et donc, on est dans cette relation qui nous permet d'avoir avec lui. Et donc, on a la Jérusalem céleste qui est autour de l'agneau, qui goûte de l'arbre de vie, lequel est encore une figure eucharistique. Puisqu'on parlait du pain de vie, et là, c'est l'arbre de vie, donc on est toujours dans la même thématique. Notre vocation est de voir Dieu de nos yeux de chair, alors qu'actuellement, nous ne voyons que les espèces qui nous voilent en même temps qu'elles nous dévoilent sa présence. La messe est le gage de la gloire à venir, et non cette gloire elle-même. Et l'Eucharistie est le sacrement de la Pâque, en ce sens qu'elle aide à ce passage vers le Père. Donc on a aussi c'est pas le repas pascal des Juifs, mais on a cette dimension de Pâques. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a toujours aussi ce mot-là, hein. C'est un passage, voilà, c'est un passage à la vie en Dieu. L'Eucharistie est vraiment un coin du ciel qui s'ouvre sur la terre. L'Eucharistie apparaît en même temps comme la source et le sommet de toute l'évangélisation, puisque son but est la communion de tous les hommes avec le Christ et en lui avec le Père et l'Esprit Saint. Je ne pouvais pas ne pas mentionner que l'Eucharistie est missionnaire. Voilà, nous aide à la mission et l'évangélisation. Et un petit texte de Jean-Paul II, parce que quand même, il a dit des choses très belles, et notamment sur son dernier chapitre, c'est sur Marie, femme eucharistique. Et du coup, c'est un peu pour vous inviter à méditer ça. Dans l'Eucharistie, l'Église s'unit pleinement au Christ et à son sacrifice, faisant sien l'Esprit de Marie. C'est une vérité que l'on peut approfondir en relisant le Magnificat dans une perspective eucharistique. En effet, comme le cantique de Marie, l'Eucharistie est avant tout une louange et une action de grâce. Quand Marie s'exclame « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur », Jésus est présent en son sein. Elle loue le Père pour Jésus, mais elle le loue aussi en Jésus et avec Jésus. Telle est précisément la véritable attitude eucharistique. Et je trouvais que c'était une jolie méditation de méditer le Magnificat pour penser à l'Eucharistie. Et puis la dernière phrase de l'Apocalypse, « Maranatha, viens Seigneur Jésus », puisque c'est un peu ce qu'on fait dans toute messe. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire.